Des questions particulières sur le contenu de la paracha, dites-le-moi tout de suite, on commencera par vos questions. Dans tous les cas, nous allons voir l'ensemble des événements et nous allons étudier un principe. Dès qu'on commencera le déroulement historique de ce que nous est rappelé dans ce récit, on va s'apercevoir d'une accélération de l'accomplissement de promesses antérieures dont l'accomplissement avait beaucoup tardé. On se posera la question, comment comprendre cette situation? Il y a eu des promesses faites à Abraham dans toute la paracha précédente. Et puis, si vous avez suivi le texte de la paracha précédente, vous remarquerez que, ça je crois qu'on l'a un peu étudié la semaine dernière, il y a une difficulté pour Abraham, non pas d'admettre que Dieu puisse accomplir ce qu'il promet, mais de réaliser que c'est bien à lui que Dieu s'adresse. Il y a une mutation d'identité qu'Abraham doit vivre pour être capable. Ici, vous allez m'aider en français. Souvent, il arrive qu'on écoute mais qu'on n'entend pas, ou qu'on entend et on écoute. Non, qu'on écoute mais on n'entend pas. Alors, il écoute ce que Dieu lui dit dans ses promesses, mais n'arrive pas à les entendre. Pourquoi ? Parce qu'il revient d'une identité d'exil. Vous vous rappelez l'identité araméenne ? Et il faut qu'il retransforme son identité, qu'il redevienne hébreu. Et cette difficulté d'acquiescer, à admettre qu'il a le mérite d'être celui que Dieu interpelle par ses promesses, est parallèle à cet effort de retrouver la racine hébraïque de son identité, qui s'était, comment dire, diluée dans une... Je cherche un terme un peu moins fort que diluée quand même, qui s'était clandestinisée dans l'identité de galoute, dans l'identité d'exil, de l'assiliation de Babel. Je ne reviens pas sur les détails de toute la redécouverte de ce fait, mais je signale le problème. Abraham n'est pas un Mésopotamien qui magiquement devient hébreu, à la suite d'une révélation d'ailleurs qui lui parle en hébreu, tout simplement parce qu'Abraham était hébreu. C'était un hébreu, se trouvant en situation de diaspora et de fonction de diaspora dans la civilisation du temps, qui était l'assiliation de Babel. Il y a eu un événement historique grave. Cette civilisation qui est la civilisation de Nimrod, Nimrod, le tyran de cette époque, devient totalitaire. Et comme toute civilisation qui devient totalitaire, là je vous résume les Midrashim, toute civilisation qui devient totalitaire, l'identité la plus exposée, c'est l'identité Israël. Nous avons eu suffisamment dans l'histoire, et en dernier lieu, ce qui s'est passé dans l'Empire soviétique, d'exemple de cela. Ça se retrouvera dans l'exil d'Égypte, ça se retrouvera à travers tous les exils. Lorsque une civilisation devient impérialiste, elle devient l'empire, alors effectivement, toutes les minorités sont interpellées, mais centralement, cette manière d'être homme si particulière, l'identité hébraïque. Alors ce qu'il fallait restaurer comme mémoire historique, c'est qu'il y avait une dispersion des Hébreux à Babel. Une famille de ces Hébreux de la dispersion de Babel a été rescapée de la fournaise d'Ukrasdi. Et encore une fois, il a fallu attendre le temps contemporain pour avoir expérience de quoi il peut s'agir lorsque les Midrashim nous disaient que les Babyloniens jetaient les enfants des Hébreux dans la fournaise d'Ukrasdi. Et donc, il faut bien avoir clairement à l'esprit. Et c'est difficile pour nous à identifier parce que tout simplement c'est notre problème, c'est le problème de notre génération. Une génération de fin d'histoire d'exil qui doit opérer cette mutation d'identité, de retrouver l'identité hébraïque originelle compte tenu de ce qui s'est passé entre-temps dans son histoire. Alors pour le dire en termes contemporains, les Juifs sortis de la civilisation européenne contemporaine et de toutes ces annexes du colonialisme européen, finalement sont en train de vivre cette mutation d'identité qui les mène à redevenir des Hébreux. Ça se passe dans la société israélienne, qui est la matrice de réengendrement de l'Israël hébreu à partir de l'Israël juif. Alors c'est la même difficulté, c'est le même effort, c'est le même problème que la Torah nous raconte au niveau de l'histoire d'Abraham et de sa famille. La difficulté, c'est qu'on arrive difficilement à imaginer cela. Abraham a passé par différentes étapes d'identité. Il n'est pas le même à la fin qu'au début de cette, il y a un terme en français mais ça m'échappe, cet itinéraire spirituel, si je dis, mais c'est plus que spirituel, c'est anthropologique. Il est Abraham, l'hébreu devenu araméen, et il faut qu'il redevienne Abraham, l'hébreu. Une des dimensions de cette mutation, c'est de passer d'une identité galoutique, exilique, très spécifique. Abraham n'était pas juif, il était hébreu, mais je dirais, pour nous aider à nous identifier, il était judéo-mésopotamien. C'est très spécifique. Et il faut qu'il passe à l'indice de l'universel, judéo, l'humanité entière. Parce que c'est ça l'hébreu. Si vous vous rappelez des études précédentes qu'on a eues sur les ancêtres d'Abraham, et en particulier l'ancêtre qui a fondé cette manière d'être homme, qui s'appelait Ever. Ever est à l'indice de l'homme universel. C'est encore l'identité telle qu'elle était créée au niveau d'Adam Harishon qui s'est préservée à travers la catastrophe de Babel où l'humanité a éclaté en nations. Alors à partir de Ever, du temps de Ever, plus exactement la génération de son fils Peleg, Dora Pelaga, la tour de Babel, il y a les nations qui sont tout autant de manière spécifique et géniale, mais partielle, d'être l'homme, et il y a l'hébreu qui est, de ça on a parlé, qui est l'homme universel, de ça on a parlé assez abondamment la dernière fois, je vous ai donné l'exemple des juifs. Les juifs, mystérieusement, peuvent être n'importe quelle manière d'être homme, esquimaux y compris. Esquimaux, pour un juif, c'est pas plus exotique que corse. Alors je vous garantis qu'il y a des juifs corses. C'est clair. Donc, bon. Mais alors mettez ça à l'indice de l'universel humain. Le Yémen, l'Afrique du Sud, en fait, tout ce que vous voudrez. On est tellement habitué et familier qu'on ne se rend pas compte de la massivité énorme de ce cas particulier de l'histoire des hommes. Une manière d'être homme qui peut être n'importe quel autre homme à la fois et avec un patriotisme local second au 13e degré admirable. Je vous en ai parlé assez souvent, mais je crois qu'il faut bien garder ça en tête. Vous n'avez qu'à voir. Si vous voulez, je crois que l'expérience que j'ai eue, c'est une expérience négative, mais je veux dire du côté obscur des choses, une visite au musée de la diaspora à Tel Aviv, et de voir comment cette manière d'être homme, les juifs, parce qu'ils sont les hébreux, sont capables d'être n'importe quoi. Et avec un génie de civilisation qui est celui des nations chez qui ils ont vécu, mais à la juive. Prenez l'exemple, on peut faire des thèses de doctorat là-dessus. On peut faire une thèse de doctorat sur le phénomène lampe de Hanouka. Alors la manière dont la lampe est une lampe, elle est goy. Mais le fait que ce soit Hanouka, c'est à la juive. Et alors c'est Hanouka la marocaine, Hanouka la polonaise, mais la lampe, elle est la lampe des nations. Tiens, nous sommes la lumière des nations à Hanouka. Oui, et on peut dire la même manière pour la musique. Et en tout cas pour les arts que la tradition a gardés comme... je voudrais trouver un terme précis, par essence, non, ne menant pas à l'idolâtrie. Parce qu'il y a un problème entre l'art et l'idolâtrie, un problème en soi, tu ne te feras pas d'image, en quel sens ils vont comprendre ça. Mais je voudrais vous citer un très grand maître de la chassidoute, c'est le Rav de Berditchev, Yitzhak Levi de Berditchev, qui a un enseignement assez extraordinaire. Il appelle la musique Taranou Elion, c'est-à-dire là, une fois traduit en français, ça s'aplatit. Taranou Elion du créateur lorsqu'il entend la musique des mondes qu'il a créés. Le Taranou Elion, c'est la musique. Si vous avez des musiciens, enfin des musiciens, il y en a sûrement, mais je veux dire des mélomanes, je ne sais même pas si tous les musiciens sont mélomanes, enfin ils devraient. Il est clair que il y a une expérience de sagesse à travers la musique qui dépasse infiniment la sagesse à travers la métaphysique elle-même. Bon, c'est une parenthèse que je signale en passant pour vous parler de la musique. Ah oui, les arts. Et donc, il y a un exemple assez paradoxal. Le juif de l'exil est la preuve que l'hébreu est universel. C'est clair. Mais le juif de l'exil, lui, est cosmopolite. Et le cosmopolitisme, c'est au fond l'échec de l'universel. De la même manière que l'impérialisme, l'empire, c'est l'échec de l'universel. Mais la trouna, l'exigence, l'idéal, C'est l'idéal de l'universel. Et alors nous sommes dans un temps où sociologiquement, l'identité israélienne oblige l'identité juive à prendre conscience de cela. Je crois que c'est une des raisons de la résistance des juifs, des juifs non sionistes au sionisme. Parce que ça oblige à prendre parti sur ce problème. Au fond, qui suis-je en tant que juif? J'ai toujours cru pendant 2000 ans que mon idéal c'était l'homme universel. En réalité, je me découvre comme cosmopolite par rapport à un hébreu. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Et alors, effectivement, mais ça travaille beaucoup d'Israéliens d'ailleurs, qui préféreraient être des cosmopolites par l'hébreu. Bon, c'est un autre problème, mais c'est de la microsociologie israélienne, mais qui ne peut s'éclairer que par une analyse de la société juive elle-même. C'est des, on va dire maladies, peut-être c'est pire, mais en fait c'est des maladies juives. Il y a ici une histoire qui expose le sujet de cette histoire à des dangers de ce type que les autres hommes connaissent parfois, mais au niveau d'élite esthétique. Il y a des non-juifs qui connaissent ces problèmes-là, mais ce sont des cosmopolites esthètes, alors que pour le juif, c'est son identité de peuple. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Bon, bref, je referme la parenthèse. Ceci pour dire que tout cela est parallèle. Il faut lire l'histoire d'Abraham en sachant qu'il a vécu cette histoire comme un itinéraire. On ne peut pas juger Abraham du début dans les critères du profil d'identité d'Abraham de la fin. Ce n'est qu'à la fin qu'il est confirmé comme étant Abraham. Tout ceci se passe dans la paracha de l'Erecha la semaine dernière et surtout dans notre paracha de Vaera. Alors, vous rappelez de la question que nous devions étudier la semaine dernière, on est resté que dans la préface de l'introduction de la première partie de l'avant-premier chapitre, c'était pourquoi il fallait confirmer à Abraham la promesse de sa terre, alors qu'on a appris qu'il s'agit de la terre des Hébreux et qu'il s'agit d'Abraham l'Hébreu. Entre-temps, il y a eu l'histoire de l'exil. Il y a eu l'histoire de l'exil et je pense qu'on peut le rattacher à ce que je dis préalablement. Il y a dans cette identité hébraïque de l'homme universel une dimension universelle et une dimension spécifique. Nos maîtres nous enseignent que, mais en français ça a l'air d'être un paradoxe, c'est une thèse de doctorat ce paradoxe, que la spécificité d'Israël c'est l'universalité. Ce qui est un paradoxe absolu pour l'anthropologie et la sociologie de n'importe quelle société humaine. Un français c'est un français, c'est sa spécificité. Un suisse c'est un suisse, etc. Et puis chacune de ces spécificités à des tribus, des sous-tribus, et tout ça, c'est génial. Il y a une ethnologie de l'humanité à étudier, et il y a deux pages du Talmud qui en parlent, hein, le mystère du visage humain, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Enfin, ça ressemble. Mais vous savez que ça veut dire quand ça ressemble, c'est que c'est pas la même chose. Eh bien, espèce de génie individuel, M. Levinas a beaucoup étudié cela, la marque de l'infini sur le visage. Ça renvoie à un infini du génie personnel de chacun. Et le Talmud dit, Dieu a créé différents visages, et chaque fois, j'interprète, chaque fois c'est un monde, c'est un homme. Et alors, dit de cette manière, ça a l'air d'être un slogan de catéchisme, enfin de synagogue, mais c'est un problème très important. Il y a une manière d'être homme dont la spécificité consiste à être universelle. Seulement, ça s'effectue au niveau de juiverie très spécifique, les juifs. Les juifs sont, au niveau de l'existence, une sorte de délégué d'une certaine essence humaine dont la spécificité consiste à être universelle. Je ne crois pas qu'il y ait identité de la vie spirituelle chez tous les juifs. Quand je parle de vie spirituelle, je parle de vie spirituelle authentique de chaque tribu d'Israël. Je ne crois pas qu'on puisse faire des égalités, des équivalences d'égalité entre différentes manières d'être l'âme juive. Chaque tribu a sa spécificité. Mais elles sont toutes authentiques. Chaque tribu d'Israël, c'est une tribu d'Israël. Mais ce qu'il y a de vraiment commun, c'est probablement de l'ordre du psychisme. Il y a des comportements juifs qui sont le propre de tous les juifs, quelle que soit leur manière d'être l'homme juif. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Et c'est plus de l'ordre psychologique que de l'ordre biologique, ou intellectuel, ou spirituel, ou culturel, c'est vrai aussi. mais c'est surtout un comportement, c'est dans le nefesh. Il y a un nefesh à Yehudi. Il y a aussi le nefesh du côté obscur du nefesh. Ça s'appelle, dans le langage de la Kabbalah, je ne traduis pas, « Shedin Yehudaïn ». Ce que l'entend de l'araméen, vous comprenez ce qu'il y a derrière. Hein? Vous avez compris ce que j'ai compris ?« Shedin Yehudaïn ». Vous savez que ça se balade où ? J'allais dire au gouvernement, mais je n'ai pas dit. Hein? En tout cas, pour revenir au sujet, je crois que c'est dans cet ordre qu'il faut comprendre les étapes qui se déroulent dans ce récit. Alors retenez, en tout cas les deux, Paul, Abraham, identité de la galoute de Babel, Aram, araméen. Vous savez à quel point l'araméen, c'est notre patrimoine folklorique familial, l'araméen. Et pourtant, c'est pas l'hébreu. Il faut que l'araméen redevienne hébreu. Il n'y a que l'araméen qui peut redevenir hébreu. Mais c'est quand il est devenu hébreu qu'il est hébreu. Je ne sais pas si c'est clair. Pour oser une comparaison, mais ce n'est qu'une comparaison. L'araméen a été le yiddish qui a été le yiddish commun à tous les hébreux à la fois. Pourquoi je dis comparaison ? Ben, le yiddish n'est que le yiddish des yiddishisants. Comme le judéo-arabe n'est que le judéo-arabe des judéo-arabes. Comme le ladino n'est que le ladino des ladinos. Tout ça, c'est des yiddish, enfin des langues juives. Mais l'araméen était ce cas particulier d'une langue juive familiale commune à tous les juifs hébraïques. Ce n'était pas des juifs, au début c'était des hébreux. Et d'ailleurs, c'est resté la langue rabbinique. Lorsque les rabbins s'écrivent ou écrivent leur chidushim en langage de l'hébreu rabbinique, c'est de l'araméen hébraïsé. Certains disent de l'hébreu araméisé, mais je crois que c'est l'inverse. C'est de l'araméen hébraïsé. Les rabbins se comprennent en araméen d'abord. Et l'hébreu, c'est l'hébreu. Bon, vous comprenez tout ça, j'espère. C'est la raison pour laquelle, très souvent, si vous faites un peu d'érudition juive, vous devez remarquer que les textes fondamentaux de la tradition sont hermétiques à des gens qui connaissent que l'hébreu. Parce que c'est de l'araméen. Est-ce que c'est clair, ce que je veux dire ? Je ne parle pas seulement du kaddish, mais je parle de textes important, en particulier la littérature rabbinique. Et c'est la littérature rabbinique qui est la pensée juive, vraiment. Bon. Alors voilà, on commence. Ça commence au chapitre 18, verset 1. La scène précédente, est-ce qu'il n'y a plus de chaises ? Est-ce que vous ne pouvez pas faire aérer un peu plus ? Pourquoi c'est fermé là-bas ? Vous êtes des torsionnaires nazis. J'ai parlé de la fournaise, ça les a inspirés. Essayez même d'ouvrir la porte si vous pouvez, parce que vraiment, je sens que vous avez chaud. Alors, la scène précédente, c'est l'alliance de la circoncision. Et à la fin, la paracha de l'Echecha. Et nous allons voir qu'il y a là une clé du problème que j'ai signalé. Quel est le facteur qui a cristallisé cette accélération des événements qui sont racontés dans la paracha de Vayera ? C'est le fait que, très tard dans l'histoire de sa vie, Abraham va se circoncire. Alors, cet événement va ouvrir les portes de la prière, comme dit le Midrash. Je prends l'exemple de la prière. Vous avez, très souvent... Alors là, on rentre dans le mystère de l'expérience de la vie, et ça, c'est une expérience propre à chacun, c'est subjectif. On ne peut pas mettre ça en forme collective, objective. Très souvent, on s'aperçoit qu'il y a des moments de la vie où énormément de choses espérées s'arrivent ensemble, alors qu'on les a espérées longtemps, et puis ça tardait, et puis ça, y avait des obstacles. Alors tout se passe comme si il y a un emmagasinement de prières non exaucées qui attendent un certain facteur de mérite mystérieux pour nous, qui, lorsque ce facteur arrive, ça ouvre les portes de la prière, et alors les vannes s'ouvrent et la bénédiction arrive. Est-ce que c'est clair ? J'ai dit ça sous forme imagée, mais c'est plus qu'une image, bien sûr. Alors, c'est ce qui arrive dans l'histoire d'Abraham. Tout se passe comme si c'est l'alliance de la circoncision qui déclenche cette accélération des événements que nous allons lire. Et alors, question, comment se fait-il qu'Abraham, l'hébreu, va attendre si longtemps pour entendre qu'il faut qu'il se circoncise. Est-ce que c'est clair ce que je dis ? Imaginez nous avons une illustration très très assez énorme. C'est un clin d'œil de l'histoire. Je pense aux Juifs russes qui arrivent et qui, finalement, trouvent tout à fait normal, pas tous, mais presque tous, qu'il faut se circoncire. Alors, et jusque-là, vous voyez ce que je veux dire. Je n'ai pas dit qu'Abraham était un Juif russe qui avait attendu si longtemps. C'était un Hébreu mésopotamien revenu de son exil et qui, en fin de compte, entend ce qu'il faut. Et d'ailleurs, le Midrash raconte de manière apparemment anecdotique, mais très profonde. Et quand il a entendu, finalement, le commandement qu'il lui a donné juste avant, la circoncision, il va prendre conseil de son ami cananéen, et dit, qu'est-ce qu'on pense? Et l'ami cananéen, Mamré, okay, lui dit, mais il faut, bien sûr. Okay. Oui, voilà un exemple typique de la difficulté de se rébraïser de l'hébreu lui-même, Abraham. C'est pas n'importe qui. Okay. Et en plus, le Midrash raconte, vous voyez, tout ce qu'on étudie dans le Midrash, qu'il fallait décider, bon, la circoncision, j'ai compris, je sois circoncis, mais dans quel membre? Après tout, ça ne va pas de soi. Et d'ailleurs, ce n'est pas dit en clair. Ça ne va pas de soi. Et comme quoi, il y a toute une sagesse préalable à la capacité d'entendre ce que la Torah comme loi demande, qu'il fallait retrouver pour pouvoir être capable d'entendre ce que la Torah demande. Et il y a un exemple qui me revient à l'esprit. C'est un événement apparemment anecdotique qui s'est produit pendant la dernière guerre. Vous avez entendu parler de San Nicandro? Ça vous dit rien? C'est un petit village italien, San Nicandro, où il y a eu un schisme dans l'église. Il y avait les partisans du vicaire Aleph et les partisans du vicaire Bouk. C'est comme ça se passe dans des synagogues, d'ailleurs. Et alors, finalement, ceux qui se sont séparés de l'église officielle ont décidé de refonder la vraie religion de la Bible, c'est-à-dire la loi de Moïse, en ignorant complètement que les juifs existaient. Vous savez que la catéchèse de l'église avait une formulation, ça commence un peu à changer, un peu beaucoup parfois à changer, formulation telle que les chrétiens étaient incapables d'identifier les hébreux de la Bible dans les juifs. D'ailleurs, les juifs y mettaient du leur pour empêcher cette identification. Moi juif, moi hébreu, moi je suis français. Alors le français dit bon, j'ai compris les juifs. Donc à l'église, ils lisaient les hébreux, les hébreux. Dans la banque ou à l'épicerie, hein, ou à la synagogue, rentraient les juifs, mais quel rapport? Aucun. Alors ces chrétiens de San Nicandro ont décidé de réinventer ce que nous savons être le judaïsme. Et comme ils étaient complètement incapables de réinventer le judaïsme, ils se sont fabriqués une espèce de liturgie de mitzvot, paramitzvot, à leur manière, très sadducéenne, c'est-à-dire on a un texte, un dictionnaire, on voit comment on va faire. Okay. Alors imaginez, bon, il y avait quand même un certain nombre de clichés. Ils savaient quand même comment on faisait une circoncision, parce que les musulmans l'ont aussi. Sinon, ils n'auraient jamais su. Okay. C'est pas dit. Et alors... finalement, pendant la guerre, il y avait l'armée américaine qui rentrait à San Nicandro. Dans le bataillon qui rentrait à San Nicandro, il y avait des soldats juifs et un aumônier rabbin qui les a rencontrés. Ils ont fini par s'expliquer. Et l'aumônier américain les a engagés à monter en Israël après la guerre. Ils ont fondé d'ailleurs un kibboutz qui s'est défait depuis. Mais il doit y avoir encore quelques rescapés des ex-chrétiens de San Nicandro qui se baladent dans le pays. Vous ne connaissez pas cette histoire?
Ils se sont convertis.
Oui, mais le kibboutz en question ici n'existe plus. Donc, ils se sont convertis, maman. Oui, bien sûr. Bien. Et alors, c'est rien?
Leur vicaire n'était pas hémophilien.
Parle pas plus fort.
Leur vicaire ne pouvait pas se circoncire.
Ah, c'est possible. Ce détail, je ne connais pas. Mais d'après le Shouran Arour, s'il y a quelqu'un de hémophile, il a le droit de ne pas se circoncire. Donc il est resté cachère, celui-là. Non, mais je voulais mettre ça en évidence. Abraham, si tard dans sa vie, et la circoncision, vous voyez jusqu'où ça peut arriver, l'assimilation. Et c'est de bien comprendre ce que je veux dire maintenant, parce que c'est un problème contemporain qui est très important pour nous. Il y a une grande erreur chez les sociologues. L'assimilation dont on parle quand on parle des milieux juifs, ce n'est pas une catégorie religieuse, c'est une catégorie nationale. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Il y a énormément de comportements qu'on définit comme étant des comportements religieux parce que c'est le vocabulaire de la civilisation occidentale contemporaine qui le désigne comme ça, mais qui sont en réalité des comportements nationaux. Je vous donne un exemple pour la circoncision. Il y a un certain nombre d'années, ou plus que 20 années, il y a eu un grand débat en Israël. C'était un des épisodes d'un débat qui redevient très dangereux actuellement, où une partie du gouvernement, les gens de Meretz, pour dire les choses en clair, tiennent absolument à déjudaïser le pays. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Pas seulement la viande, tout. Non seulement le pays est arabe, mais le peuple n'est plus juif. C'est rassurant, parce que quand on... Yeridal et Tzorech Aliyah, quand on descend si bas, c'est qu'on va remonter très haut. Mais en tout cas, vous connaissez les rebondissements de l'histoire. De toutes les façons, mais il faut être juif pour être cinglé comme ça. Bon. Cinglé, priez pour nous. Non, en tout cas, pour revenir au sujet, à ce moment-là, c'était l'affaire Shalit. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, l'affaire Shalit dans le terme. Ça vous dit quelque chose ? Bon, c'était un Israélien d'origine juive, mais de culture hébraïque déjudaïsée. Enfin, culture hébraïque déjudaïsée, dans ma bouche, ça fait bizarre. Bon. Qui était marié avec une scandinave, d'ailleurs, je ne sais plus si elle était suédoise ou norvégienne, et qui avait décidé de demander de mettre sur sa carte d'identité, pas juif, mais hébreu, pour dire que sa religion n'était pas la religion juive, mais qu'il était hébreu en tant qu'israélien, de nationalité. Finalement, il a quitté le pays après cette histoire. Et d'ailleurs, sa femme était protestante et pratiquait le protestantisme. Et alors, il y a eu tout un remous politique dans le pays. On aurait dû être déjà alerté à ce moment-là qu'il y a un vrai problème, il faut le résoudre. Et alors, il y a eu un grand débat à l'université, animé par des professeurs, surtout de gauche, et puis le public, c'était énormément d'étudiants d'extrême-gauche, surtout d'Hachemar Hatzaïr. Et alors, le Rav Neria, on avait demandé au Rav Neria, qui est le Rosh Yeshiva de Bnei Akiva, le fondateur des Yeshivas de Bnei Akiva, un des signataires de ce texte d'ailleurs, Rav Neria commence un discours en disant « Je ne comprends pas, tous les jours du sang juif innocent est répandu dans ce pays et vous ne réagissez pas. » Les gens se demandaient de quoi il parlait. Il dit « Bon, on circoncise vos enfants et vous ne dites rien. » Alors, silence dans la salle. Et en fin de compte, un Hachemar Hatzaïr qui se lève, ça devait être un Nord-Africain d'origine, vous allez reconnaître, et qui dit en hébreu « Tu nous prends pour des bâtards ?» C'est comme ça qu'un Nord-Africain parle. Et alors, on n'est pas des bâtards quand même, on ne va pas se circoncire. Vous voyez la réaction, hein? Alors que tout le monde parle de la circoncision comme un acte religieux, qui est aussi un acte religieux, mais de très profond, eh bien, cette réaction. Alors quoi, je suis d'Israël ou pas d'Israël? Kacher, je ne mange pas, Kippour, je ne connais pas, mais circoncis, il ne faut pas exagérer, on n'est pas des bâtards. Vous voyez la réaction? La séance s'est arrêtée là. Tout le monde a applaudi et est parti. Ça veut dire qu'il y a des limites. Ce que j'ai appelé une fois des lignes rouges. Enfin, c'est pas de moi les lignes rouges. Et effectivement, la Gemara dit, il y a deux mitzvot que les Hébreux au désert ont accepté avec joie. Et c'est deux exemples qui expliquent que les mitzvot que le peuple d'Israël ont accepté avec joie sont indélébiles. C'est Pessah et la circoncision. Et effectivement, vous remarquez ça, que quel que soit le comportement culturel des Juifs, et des Juifs d'ailleurs, Pessah, ça reste Pessah, et la circoncision, il ne faut pas exagérer, on n'est pas des bâtards. Vous avez compris un peu comment ça marche. Or, ça, c'est une réaction d'ordre national, avant d'être religieuse. Allez dire à un Hachemar Hatzaïr qui est en train de commettre un acte religieux en faisant circoncire son fils. Il va vous raconter des histoires philosophiques. Mais non, c'est une question d'hygiène. Ah, c'est une question d'hygiène. Et pourquoi tu fais ça à la juive? Vous comprenez? Bon, ça veut dire qu'il y a des marsomimes, comme on disait, des barrages qui jouent. L'enseignement du Midrash à ce sujet, c'est que, vous allez m'aider, ceux qui ont la mémoire fraîche, les Hébreux d'Égypte ont été sauvés grâce au fait qu'ils ont été fidèles. À quoi? Ils n'ont pas changé leur langue, ils n'ont pas changé leur habit, ils n'ont pas changé leur nom, et ils sont restés pudiques. Alors que les Égyptiens, c'est, vous savez, c'est un cabaret égyptien. y a pire, le nom est à pire, il y a un côté, libanais. Vous savez que c'est un cabaret libanais. Alors, vous allez me demander d'où je sais tout ça. Ouais, figurez-vous, j'habitais Paris. Non, je reviens au sujet. Mais tout ça, c'est des comportements nationaux. Tu vois, c'est clair. L'Oshinu et l'Eshona, l'Oshinu et l'Eshmam, Emma, Malgusham, Emma Lusham et Tiniout. Ma? Nahon. Et regardez, il n'y a rien de cultuel là-dedans. Tout ça, c'est yid, comme disent les Ashkenazes. Hein? Vous avez compris ce que je veux dire? C'est des comportements nationaux. Et effectivement, il faut bien comprendre une chose. On peut être très pratiquant de la religion juive et être assimilé complètement. Est-ce que c'est clair ce que je disais? Et inversement, on peut être pas du tout pratiquant et puis être très, très, très juif. Bon, ça ne veut pas dire que ça donne le droit à n'importe qui d'être tordu. On peut être tordu. Bon. Mais ce que je veux désigner, c'est l'identité, de quoi il s'agit au niveau de l'identité. J'ai connu surtout des juifs allemands, de la Chita Torahimlev, des juifs de Francfort. Mais vraiment des modèles de pratiques religieuses, mais très assimilés à la nation allemande. Et pour eux, l'idée du sionisme, ça leur paraissait un blasphème religieux. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Vous savez, quand le consistoire de France a adopté comme slogan « civilisation et religion », vous vous rappelez les tampons du consistoire, civilisation et religion. Torah im der Rest. Mais ça allait de soi qu'il s'agissait de la civilisation française. De la même manière, ça allait de soi à Francfort qu'il s'agissait de la civilisation allemande. Hein? L'idée qu'il y avait une civilisation hébraïque, une civilisation d'Israël, s'était perdue avec le temps de l'exil. Il était resté la religion. Vous voyez l'ampleur du drame. Hein? Alors retenons cela. L'assimilation, c'est une catégorie nationale. Comme je dis souvent, d'ailleurs ça offusque les juifs en France, il y a une seule, vous connaissez la méthode assimile, il y a une seule méthode assimile cachère, c'est l'assimile à Sion. Vous avez compris? Eh bien, c'est national. Top. Alors voilà, donc, on reviendra là-dessus s'il nous reste du temps. Ça cristallisait toute une série d'événements qu'on va lire. Alors à partir du début du chapitre 18, Dieu se révèle à Abraham et à Sarah à travers la vision des trois anges. À travers, il faudrait que je dise plus, il y a eu la vision des trois anges et la révélation de Dieu. Vachem, Tzavala. On verra le texte. Pour annoncer à Sarah qu'enfin, ça y est, elle va avoir un enfant. Alors, comprenez la forme du récit biblique. Dieu a promis dans toute la parasha de l'Echa. Et en fin de compte, il va naître l'enfant. Et en fin de compte, et voilà, et ben voilà, ça va arriver. Et alors, il ne peut pas le faire tout de suite. Vous voyez qu'il s'agit d'un événement d'accomplissement d'une promesse, mais la promesse attendait l'occurrence de sa réalisation. Voilà donc l'annonce faite à Sarah. Deuxième scène, en avant-scène. C'est Sodome et Gomorre, enfin la destruction de Sodome et Gomorre. Ça commence au verset 16 du chapitre 18. Alors voilà, nous avons un grand principe qu'enseigne la Gemara. Chaque ange est chargé d'une mission. Il y avait donc trois anges, il y avait trois missions. L'une de ces missions, c'était d'annoncer la naissance d'Isaac à Sarah. Le deuxième ange, c'était pour guérir Israël, il en a besoin d'ailleurs, pour guérir Abraham de la fièvre de la circoncision. C'était Raphaël. Et troisièmement, c'était Gabriel, qui est la Minatadine, et qui vient punir Sodome et Gomorre. Or, que se passe-t-il? Ça fait longtemps que Dieu sait que, là je vous cite un verset, à partir du chapitre 16, on nous décrit la situation de saturation d'immoralité de Sodome et Gomorre. Et que ces gens-là, c'était l'abomination de l'immoralité sur terre. Mais ça fait longtemps que ça dure. Alors pourquoi c'est maintenant que je décide d'envoyer Gottfried Vamelach et Vous êtes passé à Sdôme, vous voyez le résultat. La première fois que j'ai visité les grottes de Sdôme, je me suis rappelé de la femme de Lot. Quand elle s'est retournée, je vais dire une blague en français. Elle a dit, le sel, j'aime. Vous savez que ce c'est le sel. mais on est saisi, enfin disons, du résultat de ce qui s'est passé. Mais pourquoi s'attendre tout cela? Alors là, il y a un thème très important, c'est le thème du sursis. Et je vais le formuler par rapport à notre sujet. Ça s'appelle en hébreu « Arichut Apaim ». Dieu est « Erech Apaim ». Le dictionnaire vous traduit « patient ». Mais c'est plus que la patience. Il y a un mot français technique, c'est la longanimité. Vous connaissez ce mot-là? Être longanime. Alors, je veux dire d'où ça vient, c'est traduit de l'hébreu. « Erech Apaim ». Littéralement, étymologiquement, c'est le visage long. Dans la Kabbalah, c'est Arichanpin, pour ceux qui connaissent. Et c'est plus que la patience. La patience, pour Dieu, c'est le fait qu'il est dû à la créature l'abri du sursis, quelle que soit l'erreur, quel que soit l'échec. C'est une mida, une modalité d'être, un attribut du Dieu de la Bible qui est très important. Tous les sursis sont donnés jusqu'au bout. Ça nous est dû, jusqu'au bout, mais il y a un bout. Il y a un rendez-vous. Ça nous est dû. Pourquoi? Parce que nous sommes condamnés par le fait d'avoir été créés à quelque chose d'impossible. Être sans être Dieu. Mais comment être sans être Dieu? Il n'y a que Dieu qui est. Alors Dieu nous condamne à l'être et débrouille-toi à l'être de créature. Tous les trébuchements sont possibles. Et donc, le créateur nous doit, si j'ose dire, vous comprenez pourquoi je parle comme ça? Cet abri du sursis. Et là, j'ouvre une parenthèse. Nous avons un grand débat avec le christianisme sur leur manière de lire les textes de la Bible. Et je veux dire qu'au fur et à mesure que je reprends ces problèmes avec eux, pas entre juifs, mais il nous arrive d'étudier ensemble, parce qu'il faut les aider à s'en sortir de cette impasse. Pendant 2000 ans, ils ont cru qu'ils étaient Israël. Et maintenant, il faut qu'ils résolvent un problème insoluble pour eux. S'ils ne sont pas Israël, qu'est-ce qu'ils sont ? Bon, c'est notre sujet. Et je voulais répéter, il n'y a que les théologiens juifs qui peuvent aider les théologiens chrétiens à résoudre ce problème. Et nous avons intérêt à cela. Parce que tant qu'ils se croyaient Israël, étant donné qu'il ne peut pas y avoir deux Israël, nous étions en danger. C'est clair. Alors maintenant qu'on a ressuscité, comme ils disent, il faut qu'on les aide à ressusciter, à se retrouver. C'est notre problème. Mais ce qu'il y a, c'est que pour eux, la lecture de la faute du premier homme, qu'ils appellent le péché originel, est une lecture tragique. Et alors, il en résulte une formulation qui est très chrétienne, l'homme est pécheur par nature. Ça, c'est la formulation chrétienne. Entendez bien en français. Pour la lecture juive, c'est pas du tout ça. L'homme est peccable par nature. Ça veut dire être donné au risque de la faute. C'est clair. Notre nature est d'être libre. Chacun a son niveau de liberté, a sa capacité de liberté. On est plus ou moins libre, on est quasi libre. On est quasi conditionné, quasi libre. Mais c'est notre spécificité d'être humain, ce facteur liberté en quoi que ce soit. Et parce qu'on est libre, alors on est donné au risque de la faute. Ça ne veut pas dire qu'on est fauteur, ça ne veut pas dire qu'on est pécheur. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est très différent. Il y a une sensibilité religieuse très différente. Il y a un perpétuel souci du juif, est-ce que je suis en ordre? Ça se dit en hébreu, est-ce que je suis tzaddik? Est-ce que je marche juste? Okay. C'est un souci de morale pratique. Okay. Mais jamais un juif ne se prend pour un monstre, parce qu'il sait qui est son Dieu en tant qu'homme. C'est un blasphème de croire que Dieu nous a créés monstrueux. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hommes qui arrivent à devenir des monstres. Mais ça, c'est les déchets de l'histoire. Ce n'est pas l'histoire. Et comme nous avons une épaisseur de vieillesse d'histoire énorme, on est encombré de déchets. Alors, c'est plein de monstres. Mais ça ne veut pas dire que l'homme est monstrueux. Voilà ce que je voulais dire. Alors, il y a une espèce de diagnostic pessimiste, de désespérance dans l'âme chrétienne qui se connaît, dans sa bonne foi propre, comme déchu. Je vais vous raconter une anecdote. C'est que je me suis occupé de scoutisme. Et je me souviens, en France, nous avions une réunion de, des aumôniers et des mouvements scouts. Et je me rappelle une conversation que j'ai eue avec l'aumônier protestant. Parce que les protestants, c'est encore plus que chez les catholiques. Chez les protestants, l'homme n'est pas seulement déchu, il est maudit. Chez les protestants, le blasphème, c'est faire semblant d'être heureux, d'être joyeux. Ils ont des problèmes avec leur moment de joie. Il y avait une phrase qui me revient de ces conversations avec les protestants. Vous voulez donner un complexe à un protestant, dites-lui qu'il est heureux. Tout de suite, il va se mettre à jouer. Et il va commencer, hatati, habiti, je suis pêcheur, je suis pêcheur. Et alors, ils avaient un problème avec la méthode scout. La méthode scout, c'est la morale par la joie. Et je me rappelle de ce pasteur, il n'arrivait pas à s'en sortir. Je suis très scout, qui me dit, mais je suis protestant. Et alors, comment je peux faire? C'est contradictoire. Vous avez compris le drame. Hein? Et au fond, ils aboutissent tous à une espèce de dualité. Moi, je crois que c'est un petit peu de l'ordre de la schizophrénie. Je me rappelle, mais surtout chez les protestants, il leur faut une force morale énorme pour ne pas devenir fou. Je me rappelle, qui m'avait cité ça la première fois? Je crois que c'était M. Neher, une phrase de Pasteur. Il disait, que Pasteur disait qu'il n'était pas le même à l'oratoire et au laboratoire. À l'oratoire, il était croyant, mais au laboratoire, il était savant. Le contraire. À l'oratoire, Dieu existe, ça va de soi. Au laboratoire, de quoi on parle? C'est les lois impersonnelles du déterminisme naturel. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, beaucoup de juifs sont intoxiqués par ça. Hein? Ils sont en schizophrénie pieuse. Hein? Vous avez énormément de juifs très très pieux et d'autre part très très savants. Mais ils ont décidé une fois pour toutes de fermer les yeux sur leur laboratoire quand ils sont à l'oratoire et sur leur oratoire quand ils sont au laboratoire. Sinon, ils ne s'en sortent pas. Mais ce n'est pas juif, ça. C'est un croyant au Dieu un. Il n'y en a pas deux. Hein? Le Dieu de l'oratoire et le Dieu du laboratoire. Hachem ou Elohim, et pas l'inverse. En fait, vous comprenez l'ampleur du problème. Alors voilà, ça va dans ce sens-là. Et en réalité, lorsqu'on lit avec la sensibilité juive ce récit de la faute du premier homme, l'expression péché originel, ça signifie l'origine du péché.